Bonjour, je suis content pour cette dernière prédication. Je vois qu'il n'y a pas que moi qui fais des erreurs de date,
ah bon,
puisque le dimanche prochain c'est le 7 juillet et non pas le 7 juin. Mais d'habitude c'est moi qui suis le spécialiste pour faire ces erreurs-là. Comment choisir un texte pour une dernière prédication ? Au moment de faire le bilan, j'ai prêché beaucoup de choses parmi vous. Et en même temps, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire encore, tellement de livres qu'on n'a pas explorés ou de thèmes qu'on n'a pas regardés. C'est vraiment passionnant de prêcher dans cette église et ensemble se laisser interpeller par le texte biblique. Récemment, dans une réunion de prière, il y a eu un texte qui a été utilisé. Et ce texte m'a interpellé parce qu'il rejoignait un thème que je voulais aborder, soit pour une prédication, soit même une mini-série. Alors pour ce matin, j'ai plutôt essayé de faire le versant prédication que mini-série, pour ne pas être trop long. Mais je vous invite à lire, à écouter la lecture, ou à suivre dans vos Bibles si vous le voulez, de Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 15. Colossiens, au chapitre 3, et je commence au verset 12. Ainsi donc, vous qui êtes choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'une tendresse magnanime, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Seigneur vous a fait grâce, vous aussi, faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans votre cœur. Soyez reconnaissants. Si vous avez bien suivi la lecture, Paul nous donne ici des conseils vestimentaires. Revêtez-vous. Il l'utilise deux fois. Ça tombe bien, les soldes commencent et à partir de lundi, j'ai un peu de temps. Revêtez-vous. Mettez un vêtement. Qu'est-ce qu'un vêtement ? Un vêtement, c'est l'interface entre moi et le monde extérieur. C'est ce que les autres voient de nous. C'est ce que je veux montrer. Quelque chose que je choisis pour produire un effet sur les autres ou pour répondre à leurs attentes. Aujourd'hui, j'ai réfléchi pour savoir ce que je mettrais pour cette occasion spéciale et j'ai mis une cravate. Ça, c'est pour avoir une bonne note au quai qu'il a dit, les ados, oui, j'en vois qui ont la feuille. Oui, parce que dans l'église, on note la tenue vestimentaire des prédicateurs. Que faut-il revêtir ? Qu'est-ce que Paul nous invite à revêtir ? Peut-être avant de répondre à cette question, il faut voir à qui Paul s'adresse. Et Paul s'adresse là à une église. Il rappelle, vous avez été choisis par Dieu. Les auditeurs, s'ils font partie de l'Église, ont été choisis par Dieu. Leur présence dans cet ensemble, ce n'est pas le fruit de leur volonté, ce n'est pas parce qu'ils ont envie, c'est le fruit de la volonté de Dieu. On a eu des baptêmes dans cette Église la semaine dernière et ceux qui se sont fait baptiser ont exprimé leur désir de suivre Jésus, faire ce qu'il demande. Je ne viens pas ici parce que j'ai envie, mais parce que Dieu me le demande, parce qu'il me demande de changer de comportement. Et si vous vous estimez chrétien, cet impératif à renouveler votre garde-robe est pour vous. Alors, que faut-il porter pour l'été 2024? Paul conseille 4 items. Le premier, tendresse magnanime. Alors, ce n'est pas le terme le plus facile à comprendre. J'ai regardé dans d'autres versions. Revêtez-vous d'affectueuse bonté, de tendresse, d'un sentiment de compassion, d'entrailles de miséricorde, d'ardente bonté. Il s'agit d'avoir une attitude d'accueil, d'être plein de compassion pour celui qui souffre, de prendre au sérieux ce qu'il traverse. Deuxième item, la bonté, aussi traduit dans d'autres versions par bienveillance ou pitié. Il s'agit de rechercher le bien de l'autre, à ne pas confondre avec une gentillesse niaise qui serait dire oui à tout. Et comme ce n'est pas possible, dire oui à tout génère de la tristesse ou de la frustration, qui est une bombe à retardement que je cultive en moi. Troisième item, l'humilité ou la simplicité. C'est-à-dire ne pas se mettre en avant, ne pas se prendre pour plus que l'on est, ne pas penser qu'on a des droits particuliers, qu'on est plus important que les autres. Puis vient la douceur, douceur largement sous-estimée de nos jours. On lui préfère l'honnêteté. Moi, je dis ce que je pense. Mais dire ce qu'on pense n'empêche pas de le faire avec douceur. C'est-à-dire avec calme et avec le souci de ne pas blesser celui à qui on le dit. Puis, cinquième item, la patience. Et je trouve que la patience, elle va avec la douceur. C'est le manque de patience qui nous énerve et qui nous amène à devenir plus brusques face à ceux que nous voyons et qui mettent du temps à changer. Voilà ce qu'il faut revêtir, tendresse, bonté, humilité, douceur, patience. Mais dans quel but? Ce n'est pas juste pour être beau. Le but, il est là, au verset 13, « Supportez-vous les uns les autres. » Supportez-vous. À propos de ce verbe, j'ai souvent entendu ce commentaire, « Oui, supportez-vous dans les deux sens. » On met en avant le côté supporter qui soutient une équipe de sport. Sauf que comprendre, supporter dans ce sens-là, c'est un anglicisme. En français, il y a un seul sens, celui de subir de la part d'autrui sans réagir, sans se rebeller ou sans interdire, admettre, tolérer sa présence, son comportement. Heureusement que Paul s'adresse à une église. S'il fallait qu'on fasse ça avec tout le monde, heureusement, dans une église, c'est facile. Quoique. Il arrive parfois que dans l'église, quelqu'un ait à se plaindre d'un autre. C'est ce qui est écrit, si quelqu'un a à se plaindre d'un autre. Quand on se plaint de quelqu'un ou qu'on a des reproches, ce n'est pas forcément parce qu'il est coupable, parce qu'il a commis une faute. Souvent, plus souvent, c'est parce qu'il ne correspond pas à nos attentes. Il arrive en retard, ses enfants font trop de bruit, il chante trop fort, il prêche mal ou trop longtemps, il a ses dadas, il parle trop. On peut se plaindre de toutes sortes de choses. Et pour cela, pour être capable de ne pas se plaindre, de se supporter, nous avons besoin de tendresse, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et pour ces choses-là, ce dont nous avons à nous plaindre, nous sommes invités à pardonner, à faire grâce, à ne pas retenir, à passer par-dessus. Ça nécessiterait qu'on développe cette histoire de pardon. Je vais revenir dessus dans un instant. Par-dessus tout, continue Paul, revêtez-vous de l'amour. L'amour, c'est l'élément le plus important de la garde-robe. Par-dessus tout. Il est important de rappeler que l'amour tel que la Bible nous voit, n'est pas un sentiment vague qui nous tombe dessus, qu'on subit, auquel on ne peut pas résister. Ce n'est pas non plus taire ce qui se passe. L'amour, c'est une décision exigeante, comme on le voit dans ce qu'on a lu. Tendresse, bonté, humilité, douceur, patience et pardon sont des composantes de l'amour qu'il faut mettre en œuvre dans ces relations si on veut vivre l'amour. Et l'amour, c'est le lien parfait de ceux qui veulent être unis dans une alliance. L'amour n'est pas juste les comportements qu'on a cités au-dessus. L'amour ou les comportements qui le montrent, les deux vont ensemble. Le mois dernier, nous avons lu ensemble l'épître de Jacques. Et je serais tenté de dire, montre-moi l'amour que tu as sans tendresse, bonté, humilité, douceur, patience et pardon, et moi je te le montrerai par ces signes. Et en même temps, ce ne sont pas juste ces signes qui nous lient les uns aux autres. On peut les pratiquer en ayant un cœur vide. Ceux qui étaient là repenseront certainement à l'image que nous avait donnée Damien du bateau avec les deux rames. Si on ne rame que d'un seul côté, eh bien, on tourne en rond. Que ce soit l'amour sans rien qui le montre ou juste ces signes, mais sans amour au fond, on n'avance pas, on tourne en rond. Ça va, Nicolas, je continue ?
Très bien.
Je vous avais promis de revenir sur cette histoire de pardon et j'aimerais faire un zoom sur le pardon. Est-ce que le pardon qu'on se doit les uns aux autres, il est réservé aux broutilles dont je parlais tout à l'heure, en avoir marre qu'un tel arrive en retard ou chante trop fort, etc. Je ne crois pas. Parce qu'il est aussi indiqué de le faire comme le Seigneur, vous aussi. Or, le Seigneur nous a tout pardonné. Que nous ne le mettions pas à la première place, que nous ne le considérions pas comme le plus important, le centre de préoccupation, que nous vivions selon notre propre idée au lieu de suivre les commandements du Créateur, que nous ne respections pas les autres humains ou sa création. Bref, en un mot, il nous pardonne notre péché. Et la Bible nous explique combien cette offense est grave aux yeux du Créateur, dont les créatures se payent le luxe de discuter, de réfléchir. Est-ce que je vais croire en lui ou pas ? Lui qui était là avant nous. Lui qui tient le monde entier dans ses mains. C'est lui le modèle, la norme du pardon. Par rapport au pardon, il y a deux écoles. La première dit qu'il faut toujours pardonner, quelle que soit l'attitude du malfaiteur. Et l'autre école dit qu'il faut octroyer le pardon qu'au coupable qui reconnaît sa faute. S'il ne reconnaît pas sa faute, pas de pardon. Et cette deuxième école a de sérieux arguments bibliques. Par exemple, en Jérémie, le Seigneur exprime son désir de voir les Israélites revenir de leur mauvaise voie. Et il dit « Alors, dans ce cas, je pardonnerai leurs fautes et leurs péchés. » Jean-Baptiste, Pierre, Jésus prêchaient le pardon de repentance, c'est-à-dire où on reconnaît sa faute et exprime le désir de changer. Et puis, il y a cette parole dans la première épître de Jean. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. » Oui, si nous confessons. La Bible avance lourdement dans ce sens, mais la pratique m'a interrogé. Parce qu'il m'est arrivé d'aller vers quelqu'un pour demander pardon, et là, d'être assez mal reçu, de ce que la personne profite de cette situation de faiblesse pour bien enfoncer le clou sur la culpabilité. Et si je suis honnête avec vous, ça m'arrive aussi de profiter de cette situation de force quand quelqu'un vient me demander pardon. Cette façon de voir les choses peut provoquer une attitude attentiste. Tant qu'il ne vient pas demander pardon, je ne pardonne pas. Ne rien faire. Et pendant ce temps, entretenir son ressentiment. Et réfléchissant à cela, je me suis rendu compte que, avec Dieu, nous avons la garantie d'être pardonnés. Il a écrit, noir sur blanc, dans sa parole, si nous allons vers lui et que nous nous repentons, il nous pardonne, c'est sa promesse. Ça nous met quand même dans une situation confortable. Pas facile d'aller vers lui demander pardon, mais au moins, on sait qu'on sera bien reçu. Je crois que pour comprendre cette histoire de pardon, il faut se souvenir des termes que la Bible emploie, et la Bible parle de dette. Ainsi, la fin du Notre Père peut être traduit « Remets-nous nos dettes comme nous remettons aussi à nos débiteurs ». L'offense, elle crée une dette. Si quelqu'un me fait quelque chose, c'est comme s'il me devait quelque chose. Il m'a fait mal, il m'a trahi, il a causé mon chagrin, il a rompu la confiance, etc. Et je lui en veux pour ce qui a été perdu. Et pardonner, c'est annuler sa dette. Ne plus attendre de réparation. Effacer l'ardoise. Quelle belle expression française. Quand on allait dans un café et qu'on n'avait pas d'argent, on pouvait noter sur l'ardoise, Eric, il doit tant. Et quand on s'acquitte de sa dette, on efface l'ardoise, il n'y a plus rien. Mais on peut aussi le faire par grâce, effacer l'ardoise, il n'y a plus de preuves, il n'y a plus rien, tu ne dois plus rien. Et c'est ce qu'il y a de mieux à faire que d'effacer l'ardoise, parce que en réalité, c'est irréparable, irremboursable. Les larmes qui ont coulé ne remonteront pas dans mes yeux. Les nuits blanches que j'ai passées ne me seront pas redonnées. La pointe de crainte qui revient chaque fois qu'une occasion, qu'une situation y ressemble, elle est là, elle ne s'effacera pas. On ne pourra pas revenir en arrière. La meilleure chose à faire, c'est d'effacer. Je crois qu'on ne peut pas recevoir le pardon de Dieu sans venir à lui dans la repentance. Mais lui, il a tout fait pour nous faciliter le chemin. Il a sacrifié son fils pour régler la dette. Christ est ressuscité, mais que faire de plus ? Alors oui, revenir vers Dieu, ça demande une certaine humilité, c'est pas facile. Le fils prodigue, par exemple, ça lui a pris du temps pour surmonter la honte de revenir vers son père. Mais lorsqu'il est revenu, son père lui a même pas laissé le temps de terminer le petit speech qu'il avait préparé. Il lui a coupé la parole pour mieux l'accueillir. Le pardon, il est là, il est prêt, il n'attend que nous. Et cette année, je discutais avec Élodie qui a tenu une pâtisserie. J'aimais beaucoup aller dans la pâtisserie d'Élodie parce qu'il y avait des gâteaux fantastiques. Ils étaient là, ils attendaient. Il fallait juste venir pour les acheter. Et en même temps, si personne ne venait, ces gâteaux, ils étaient perdus, ils étaient jetés. C'est un peu la même chose avec le pardon. Je crois que nous sommes amenés à le préparer. Il est là, il est disponible, viens. Et si l'autre ne vient pas, ce pardon, il est perdu. Sa date de péremption, elle est moins courte que celle de pâtisserie, mais il y en a une quand même. Parce que quand la mort nous sépare, c'est trop tard pour revenir chercher le pardon. Mais j'ai l'impression que c'est cela qui nous est demandé. S'être préparé à pardonner, avoir tout prêt pour que lorsque l'autre vient, c'est déjà prêt. J'ai conscience que ce n'est pas facile. Et certaines offenses sont lourdes et la dette ne peut pas être remise comme ça. Je pense aussi qu'on peut s'entraîner. On peut s'entraîner avec ce qui nous arrive dans le quotidien et se pardonner les uns les autres. J'aimerais quand même ajouter deux, trois choses. La première, deux, trois choses pour dire ce que le pardon n'est pas. Le pardon n'est pas la confiance. Le pardon, je le dois, Dieu le commande, nous l'avons lu dans la Bible. Mais la confiance dans la Bible, elle se gagne. C'est celui qui est fidèle dans de petites choses qui en recevra des grandes. Et même après le pardon, il faut regagner la confiance qui a été perdue. Je vais prendre un exemple. Si vous me confiez un secret, quelque chose qui est vraiment profond en vous et que vous auriez honte de divulguer, et que moi je le divulgue justement, vous m'en voudrez. Et je peux reconnaître ma faute et revenir vers vous et vous demander pardon et vous pouvez me pardonner. Mais la prochaine fois que vous aurez un secret à confier, connaissant ma faiblesse, vous vous y réfléchirez peut-être à deux fois avant de me le confier. Le pardon, ce n'est pas la même chose que la confiance. Le pardon, ce n'est pas non plus taire ce qui s'est passé. Des fois, on entend des personnes dire « je lui ai pardonné » alors qu'il n'y a jamais eu de confrontation avec la personne. Et il y a un côté un peu facile de dire « je lui pardonne » pour ne pas avoir à le voir, pour ne pas affronter ce qui s'est passé, pour ne pas revenir dessus. Mais la Bible encourage. Si ton frère a péché, va le voir. Et s'il refuse de reconnaître et de changer après plusieurs étapes, la recommandation de Jésus, c'est de l'exclure de l'Église. Parce que le mal n'a pas sa place dans l'Église. Il doit être dénoncé afin que chacun sache qu'il n'a pas sa place parmi nous. Et parfois, ne pas le taire, c'est l'amener devant la justice, parce qu'il y a des choses qui sont trop grandes, trop graves, pour que ça reste entre nous. Le mal n'a pas sa place dans l'Église et le pardon n'est pas son acceptation. Et troisième chose que je dirais sur le pardon, ce que le pardon n'est pas, c'est renoncer à la justice. Nous sommes invités à pardonner, mais Dieu nous promet qu'il fera justice. Paul écrit aux Romains, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des braises que tu amasseras sur sa tête. » Chacun sera jugé selon ses actes. Et si ton travail, c'est de pardonner, cela n'efface pas ce qui a été fait. Ça sera jugé. Et les braises s'accumulent sur la tête de ton offenseur. J'ai parlé de ce que le pardon n'est pas, mais j'aimerais aussi parler de ce que la demande de pardon n'est pas. La demande de pardon, ce n'est pas s'excuser. C'est une faute de français que de dire souvent « je m'excuse » au lieu de « je te demande pardon ». S'excuser, c'est se justifier, dire qu'il y a des raisons, dire qu'on n'est pas responsable. Je vais vous donner un exemple que j'ai trouvé dans une lecture récente. Imaginez, je viens vers mon épouse. Oui, je t'ai trompé avec ta meilleure amie, mais elle m'avait vraiment draguée. Et puis, j'avais bu. Et puis, tu sais, comme j'ai eu une enfance malheureuse, excuse-moi, quoi. Ça laisse entendre que si ces conditions se reproduisent, je referai la même chose. Non, la bonne chose à dire, c'est certes, il y a des circonstances. Mais je suis inexcusable. Je te prie de bien vouloir me pardonner. Autre chose que la demande de pardon n'est pas, c'est une demande conditionnelle. Je te demande pardon si je t'ai fait souffrir, si je t'ai blessé, etc. Ça laisse l'impression que le pardon n'est demandé que s'il y a souffrance. Mais si tu es assez fort pour encaisser, ok, c'est bon, je ne te demande pas pardon. Mais la faute que je commets, elle n'est pas fonction du ressenti de l'autre. Si je ne me suis pas comporté comme il le faut, comme Dieu le demande, comme Dieu le commande, alors j'ai fait du mal. Et je te demande pardon pour ce mal. Je n'avais pas mesuré combien je t'ai fait souffrir. J'ai eu tort d'agir ainsi. Je te demande pardon. Et puis finalement, une dernière chose que la demande de pardon n'est pas, c'est une exigence. On ne peut pas exiger, je suis venu te voir, tu dois me pardonner. La Bible le commande. Le pardon offert est toujours une grâce. La suppression d'une dette. Celui qui nous le demande, c'est Dieu, qui nous a pardonné sans rien nous devoir. Mais nous ne pouvons pas l'exiger de notre frère ou de notre sœur, comme si la dette que nous lui devons, la somme que nous lui devons finalement ne comptait pas. Le pardon est un art et non pas une science. Un art auquel nous devons nous initier avec l'aide du Saint-Esprit. C'est Linda Hoyer qui écrit ça dans un texte sur le pardon. Le pardon est un art et non pas une science. Un art auquel nous devons nous initier avec l'aide du Saint-Esprit. Il n'y a pas une méthode à appliquer. Nous devons nous exercer à pardonner, pour pardonner de mieux en mieux, comme l'artiste s'entraîne pour produire un art de meilleur en meilleur. Et pour conclure, je prendrai le verset 15, où Paul conclut ce court passage en disant « Que la paix du Christ règne dans votre cœur ». On a parlé de vêtements, mais le plus important, ce n'est pas le vêtement qu'on porte, c'est la personne qui est à l'intérieur. Et quand on connaît une personne, ce ne sont pas ses vêtements qui font son style, sa personnalité, c'est l'assurance, le fait qu'elle est bien dans sa peau, dans ce qu'elle a à l'intérieur. Et pour le chrétien, ce qu'il faut à l'intérieur, c'est la paix du Christ. Cette paix, nous la recevons, eh bien, nous la recevons du pardon. Savoir pardonner, réconcilier avec Dieu, savoir qu'il n'y a plus rien qui nous est reproché, plus de dette, ni entre nous et Dieu, ni entre les autres et nous. C'est cela, la paix. Soyez reconnaissants, dit Paul. Soyons reconnaissants. Nous avons été choisis pour former un seul corps, pas un truc flou, mais une communauté de personnes différentes dont on trouve plein de raisons de se plaindre. Une communauté plus large encore, composée d'églises dans le monde entier et dont on ne trouve pas moins de raisons de se plaindre, mais une communauté qui fonctionne avec l'amour, basée sur la paix et la pratique du pardon. Amen.